habiter ici et le monde. Habiter ici
et le monde.
Habiter ici et le monde.
Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture. Bonjour, nous sommes sur Radio Anthropocène avec cette émission que je co-anime avec mon camarade Jérémy Cheval. Bonjour Jérémy.
Bonjour Valérie.
Donc cette émission c'est Habiter ici et le ici aujourd'hui ce 6 juillet 22 c'est Arles et le monde parce que l'un et l'autre sont indissociables ici et le monde et nous avons le plaisir d'accueillir Julien Lombardi. Bonjour.
Bonjour.
Julien Lombardi, qui présente ici à Arles une très belle exposition. Je rappelle que les Rencontres d'Arles ont ouvert lundi. Hein, donc vous avez tout l'été, voire même une partie de la rentrée de septembre pour profiter de ce magnifique programme. Une exposition qui s'appelle « La Terre où est né le soleil », qui est dans cet espace qui s'appelle « Croisière ». Et Julien Lombardi, vous êtes ethnologue de formation. Vous menez des investigations visuelles qui reposent sur une immersion de longue durée dans différents territoires. Nous allons parler du Mexique, mais vous êtes allé aussi en Arménie, en Égypte, et peut-être vous avez d'autres projets et nous en parlerons.
Oui.
La terre où est né le soleil, c'est ce territoire désertique du centre du Mexique où se trouve Viricuta, ou Viricuta, je ne sais pas comment on le prononce.
Viricuta.
Viricuta. Et pour les Indiens de ce territoire, c'est une entité vivante, sacrée, qui leur permet de rêver le monde pour qu'il existe. Rêver le monde pour qu'il existe, déjà en soi, c'est une magnifique histoire à venir. Et donc, chaque année, depuis des siècles déjà, parce que ces Indiens sont là depuis très longtemps, depuis toujours, depuis que les hommes sont arrivés sur ce territoire, ont traversé, ils sont partis du Moyen-Orient, et à un moment donné, pour une raison qui nous échappe, ils sont passés de l'autre côté sur cet immense continent des Amériques. Et ce territoire, dont je le disais, est un lieu de pèlerinage, toujours, hein, pour célébrer toute une série de divinités. Et notamment un non-humain, qui est un cactus, vous nous en parlerez. Et c'est un territoire aussi qui est en péril, hein, un territoire de contraste, puisque ce territoire s'est altéré avec différentes manifestations, notamment la reprise des mines, donc de l'extraction. Un tourisme grandissant, d'après ce que j'ai vu, et puis une agriculture industrielle avec tous les bienfaits sur les territoires que l'on connaît. Mais ce lieu n'a jamais perdu sa vocation spirituelle. Et donc ma première question, c'est qu'est-ce qui, dans votre manière de travailler, on parlera de l'exposition après, vous amène à, on dirait presque que c'est le territoire qui vous intéresse, et puis ensuite vous mettez en place un processus d'exploration et de mise en image de ce territoire. Donc
Mais c'est vrai que finalement, le personnage principal de ce travail, c'est avant tout le territoire comme une entité vivante. Et ce qui m'a réellement interpellé et ce qui m'a donné en fait l'envie d'aller déplier en fait les strates de réalité et de mémoire de ce site, c'est vraiment la superposition de différentes visions du monde qui y coexistent. Et sur une échelle locale, de voir en fait le reflet de la plupart des enjeux globaux. Et il y a cette espèce de mesure, d'observation de comment est-ce que la globalité viendrait en fait s'approprier ou sur cette terre sacrée, et quel est son pouvoir de résilience, d'adaptation, de lutte vis-à-vis de cette friction-là en fait. Et c'est vrai que ça a été... Enfin, c'est un territoire fascinant en soi qui propose une biodiversité qui est stupéfiante, avec toutes sortes de cactus, même de reptiles aussi, de serpents, d'aigles. Enfin, c'est un biotope qui s'étend en fait de l'Arizona aux États-Unis jusqu'au Texas et qui descend comme un triangle et dont la flèche vient arriver à Viricuta dans l'état de San Luis Potosi. Et en fait, 80% de la biodiversité de cette zone, qui doit faire quasiment pas la taille de l'Europe, mais la moitié, se trouve à Viricuta. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce que les appétits finalement extractivistes sont aussi friands de ça et de la mémoire finalement qui a réussi à conserver ce lieu pendant toutes ces années. Et c'est tous ces aspects qui m'ont donné envie finalement de mener l'enquête sur place.
Alors vous le dépliez avec des photos, des vidéos, des installations, des montages, des cartes, un humain qui tient une carte. On va avoir aussi de ce que vous appelez des photogrammes. Est-ce que vous pourriez nous parler de la pluralité des méthodes pour représenter ce réel que vous nous présentez ici dans l'exposition?
Disons que je procède souvent de cette manière-là, c'est que quand je commence un sujet, avant tout, enfin pour moi c'est quasiment une dimension de la réalité aussi, j'essaye de faire le tour de la mémoire et des ressources visuelles qui existent. C'est une façon en fait de, pas de me positionner, mais de cerner ou de découvrir en fait comment est-ce que le territoire a été représenté. Et celui-là, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que les premières images sont des images d'anthropologues, et même bien avant en fait de naturalistes ou de botanistes. Le premier étant Karl Lumholtz, qui est, que vous certainement vous connaissez. Et on remonte ainsi jusqu'à les images les plus contemporaines sont des images finalement de Google Street View. Enfin, c'est quand même, je veux dire, d'un point de vue de informatif, quand on se demande le niveau de pénétration du global sur ce territoire, quelle meilleure information que de voir qu'il y a la voiture de Google qui traverse la Terre sacrée en floutant les visages et qui la traverse justement grâce à l'unique goudron qui traverse la Terre sacrée.
Et on commence par ça dans l'exposition. C'est la première partie. On rentre par Google Street View. Hein, on rentre par ces images-là sur cette route 6.
Sur cette route 6, tout à fait. Ouais.
Et ce qui est très intéressant également sur la manière dont vous le représentez, c'est qu'on a aussi cette notion de sacralité. Et vous en parliez un tout petit peu sur les
Huichols.
Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de cette relation à cette terre sacrée et de ces mythes fondateurs finalement de ce lieu? Ce qu'on vient de parler de rentrer dans le sujet, mais aussi qu'est-ce qu'eux, ils en disent?
Donc pour les Huichols qui vivent, donc c'est ça qui est notable aussi dans le cas de Viricuta. Donc premièrement, Viricuta, la traduction, c'est la terre où est né le soleil. Et ce qui est remarquable, je dirais, c'est que ils ne vivent pas sur cette terre, ils viennent en pèlerinage une fois ou deux fois par an. Ils vivent à 500 km dans la Sierra Madre occidentale, qui est dans les États de Jalisco, de Nayarit, qui est côté Pacifique. Et donc dans différents lieux, en fait, comme une cartographie de processions et de sites sacrés qu'il faut honorer chaque année, Viricuta est celui qui est le plus à l'est. Et ils vont sur cette terre pour collecter du peyote, faire des cérémonies qui sont en fait des cérémonies où on vient d'une certaine manière se laver de certaines fautes, de certains péchés ou de certaines finalement cas de conscience qui se posent à eux, ou de problèmes communautaires aussi. Et donc tout le monde vient en pèlerinage, se réunit autour d'un feu, avec toute une somme de rituels aussi, quand on entre dans le désert, de se limpier, de se laver avec une herbe qui s'appelle la gobernadora. Et ensuite, la cérémonie qui se fait autour du feu avec le chaman, qui par des chants vient communiquer avec les participants de la cérémonie, par le médium du feu. Donc il n'y a jamais vraiment d'adresse directe. Chaque participant pose sa question, sa problématique, ou donne son sentiment en regardant le feu. Et c'est par là que se passe finalement tout le cérémoniel. Et au matin, quand le soleil se lève, tout le monde se dirige vers une chaîne de montagnes qui est juste là, et dans un creux de cette chaîne de montagnes, de la Sierra 14, pointe le soleil à cet endroit-là.
Oui, vous avez une image d'ailleurs absolument somptueuse là-dessus, avec une nuit, mais en fait deux nuits, une nuit dans la nuit, c'est assez incroyable, quoi, avec la lune ou le soleil. D'ailleurs, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas tout à fait si on est en train de la lumière se lève ou elle se couche. On a cette indécision. Et ça, c'est très frappant d'ailleurs dans votre travail. Jérémy en parlait sur cette addition de formats et de médiums. On est à la fois dans une réalité. Je pense à cette collection, par exemple, d'objets trouvés, de signes et d'objets, notamment cette trace de pied absolument craquelée, là, que je trouve absolument très très belle. Et en même temps, on a cet aspect spirituel. Hein, et qui n'est et donc qui vient se confronter. Il y a plein de moments comme ça dans le dans l'exposition où on est entre une réalité observée presque dans un détail vraiment avec un soin extrême, et en même temps on est un peu dans le mirage, on est un peu dans quelque chose on ne sait pas vraiment où on est.
Mais si vous voulez, dans la méthode, mais c'est quasiment, c'est une forme fictionnelle, mais qui est assumée ou spéculative, disons. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'à partir d'une intention documentaire, de par ma présence prolongée là-bas, mes concepts ou mes idées préacquises sur ce qu'est finalement documenté vont au fur et à mesure s'effriter en étant de plus en plus poreux finalement à l'expérience du lieu. Et je trouve que c'est un peu le narratif caché derrière ce sujet, c'est-à-dire de venir mettre en critique une relation extrêmement technique au vivant et de venir questionner en fait même l'acte photographique comme forme d'appropriation, d'extraction. Et c'est là en fait que ça devient vraiment un travail réflexif qui est comment est-ce que je peux aussi matérialiser le fait que je suis aussi une partie de ce que je critique. Ne pas regarder ce sujet-là comme si j'étais quelqu'un d'omniscient, qui a une certaine autorité ou qui est en dehors en fait de contingences ou de relations, et de venir en fait l'observer au travers d'une critique de ma propre démarche. Et à cet endroit-là, c'est par là en fait que passe le détournement finalement de ces objets techniques, et que la part un peu mystique ou sacrée vient se glisser dans le moindre morceau d'image. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, parce que c'est une manière de mettre en échec une certaine relation à l'image pour essayer d'en trouver une autre, en fait, qui soit beaucoup plus sensible.
Donc, ça revient à ce que vous disiez au départ, que le lieu était vivant et en quelque sorte, il s'exprime à travers vous, d'une certaine manière.
Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le médium devient l'auteur et non plus la caméra. Et je crois qu'à cet endroit-là, en tout cas pour moi, d'un point de vue éthique, ça a redirigé la création sur des limites, en fait. Notamment sur la représentation de l'autre, son droit à l'image, des formes de stéréotypes aussi, ou d'exotisation. Un des premiers gestes, par exemple, ça a été de passer toutes les images en noir et blanc, pour que ce désert apparaisse, si vous voulez, aussi dans une temporalité ou dans une réalité, non pas qu'il soit immatériel, mais qu'on ne puisse pas porter un regard dessus quasiment de voyage, avec un idéal de l'ailleurs, avec ses cactus colorés sur un fond de ciel bleu. Voilà, ça, pour moi, décoloniser l'image, ce serait peut-être un peu fort, mais se priver couper, enlever certaines informations pour que le spectateur ne se dise pas « Ah, j'identifie quelque chose que je reconnais ». Et qu'il se questionne sur ce qu'il est en train de voir, parce qu'en fait, ses référents ne sont plus les mêmes.
Mais on cherche toujours à le faire, à reconnaître une image qui nous rappelle quelque chose. Évidemment. Et par exemple, moi, je pense tout à fait à cette vache que vous avez en photo, où j'ai l'impression d'être au milieu du clip de Chris Cunningham, où il y a Rubber Johnny, plein milieu cette musique infernale d'Aphex Twin. Et là, d'un seul coup, il y a le petit chien qui apparaît au milieu du noir avec ses petits yeux tout brillants. Et effectivement, c'est assez intéressant, parce que votre exposition fait ça par nature. On sort vraiment de ce que l'on connaît et on y arrive vraiment, mais on le fait toujours par nature. C'est très dur d'échapper à cette « Ah ben ça me rappelle ça ».
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais disons que déjà moi, à mon niveau, j'ai essayé de me donner toutes les libertés à cet endroit-là. C'est-à-dire, il y a un désir de jeu aussi, mais un désir en fait de déconstruire sa relation à l'image, et de se permettre, en fait, si, par un geste simple, vous voyez certainement l'image avec le feu qui sort du ciel, c'est simplement, le ciel est un lac, c'est un feu au bord d'un lac, mais dans une certaine mise en espace, et dans un dialogue avec les autres images, il y a une forme d'illusion qui prend. Et en fait, on comprend l'intention de cette image sans se demander son authenticité, comment est-ce qu'elle a été construite. Par un travail de suggestion, finalement, on peut arriver à c'est indiscutable, c'est le feu qui sort du ciel, or non. Et ça, c'est un espace, je pense, de peut-être pas d'innocence, mais qui est fascinant avec l'image, de se réapproprier cela, en fait, sans trop les coder, les images.
Et il y a aussi ce brouillage que vous parlez, vous venez d'évoquer un tout petit peu la décolonisation, mais moi j'aimerais vous faire parler de ce syncrétisme que vous montrez à travers finalement les espaces du sacré. Donc vous montrez aussi bien quelles sont les pratiques et les croyances des peuples autochtones, mais aussi de sa relation avec les chrétiens et de cette manière dont finalement les choses s'entremêlent. Et pareil, entre un lieu et vous, on a toujours ce brouillage où on n'est pas finalement dans une en fait, en quelque sorte, comme s'il y avait cette construction, comme le définit Omi Baba, de la troisième culture ou du troisième espace ou de ce troisième lieu de rencontre. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Pourtant, on voit bien sur place, qu'il y a trois visions du monde qui coexistent. La première, celle des Wichol, c'est...
N'hésitez pas à boire, bien sûr. Alors, on est avec Julien Lombardi en direct des Rencontres de Arles et on parle autour de son travail et d'exposition « La terre où est né le soleil ». Donc, Julien, dites-nous.
La première, c'est une relation à ce territoire comme étant une entité sacrée et avec laquelle il y a une espèce de relation quasiment symbiotique, c'est-à-dire que c'est un pilier de leur culture, puisqu'ils viennent y récolter le peyote, faire cette cérémonie de renaissance qui est à la fois cosmique et finalement communautaire. Il y a un second niveau, c'est-à-dire vivre de la terre parce qu'elle nous donne sa subsistance, qui correspondrait plus au monde des campesinos ou des rancheros et de foi chrétienne, donc qui vivent de la terre avec des activités pastorales, agricoles. Et il y a un troisième plan qui, pour le coup, et moi c'est ce que j'appelle au sens large des formes extractivistes, c'est-à-dire qu'il y a une relation seulement de pillage, ou en fait de sortir quelque chose qui dans tous les cas ne se régénérera pas. Et ces trois niveaux, qui sont pas une verticalité, mais qui coexistent comme ça, je trouve qu'ils renvoient aussi à des registres d'images, ou à quelque chose qui est en relation avec l'histoire de l'art, ou avec l'histoire des pratiques de représentation. Et c'est ça, moi, qui m'a extrêmement intéressé aussi sur ce lieu. Enfin, je sais pas si je réponds à la question, mais...
Oui, d'une manière détournée, et je trouve ça intéressant ce que ça représente votre travail. Non, la question que je posais, c'est finalement aussi ce rapport qu'on peut avoir entre vous d'extérieur et la population, comme vous l'avez déjà cité, mais aussi sur, par exemple, dans le cadre de la photo qui s'appelle Cérémonie, vous avez cet élément qui est présenté entre les Wichol et les pratiques chrétiennes. Et je trouvais ça assez intéressant de voir que finalement, on est dans un espace qui n'est pas seulement orienté dans un lieu, parce que bien sûr, colonisation, culture, etc. Donc est-ce que vous pourriez nous parler de ce métissage et de ce syncrétisme qui se crée?
En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'il y a des associations en fait impromptues qui se passent à partir du moment où il y a un commun à défendre. Donc les communautés villageoises qui vivent tout au long de l'année sur ces terres, à l'inverse des Wichol, très souvent maintenant se défendent ensemble, notamment autour de la préservation de l'eau, qui devient un thème majeur à cause des serres d'agriculture intensive, qui font des forages à 400 mètres de profondeur et qui en fait, ils ont même des canons à grêle, de sorte à ce que ils pompent dans la nappe phréatique à 400 mètres. Ils ont des canons de sorte à éloigner les nuages pour pas que ça détruise le plastique, pour faire une culture de tomates hors sol. Enfin, je veux dire, en termes d'horreur, on est à un niveau...
On est dans l'Anthropocène, largement.
On est dans un film, mais non, nous sommes sur cette planète.
On dirait un vaisseau spatial qui s'est posé, c'est absolument horrible. Et à ce niveau, à cette occasion-là, les communautés locales, chrétiennes et Wichol, ont fait une cérémonie ensemble. Et c'était un moment absolument, absolument fascinant, parce qu'il y a eu... D'abord une prière, avec donc les Indiens qui chantaient aussi la prière. Et ensuite une cérémonie toute la nuit, avec les gens de la paroisse qui étaient également invités à manger du peyote et à passer ce moment ensemble. Et moi j'étais autorisé à ce moment-là à photographier, et j'ai commencé à faire une ou deux photos. Et bien que j'étais autorisé, je voyais une désapprobation, parce qu'en fait c'est un moment intime aussi, c'était un moment assez, assez fort pour tout le monde. Et moi-même, je me sentais dans un embarras, mais indicible. Donc, j'ai décidé de détourner en fait la chose en utilisant une caméra qu'on appelle un piège photographique. On n'y voyait pas de symbolique, mais ce qui est un déclenchement infrarouge. Et ce qui est fascinant avec ce dispositif, c'est qu'en fait, je l'ai posé à un poteau à l'entrée du cercle cérémoniel, et quand le faisceau est coupé, l'image se fait. Donc, en fait, on a quasiment un hors de soi. Un moyen d'enregistrement, mais surtout ce que ça permet aussi, c'est de participer à l'événement. Et on voit des présences sur une frise qui fait environ 4 mètres, 4 mètres 50. On voit ces présences fantomatiques qui ressembleraient à des notes sur une partition, mais qui sont anonymisées aussi. Donc, on a un témoignage de la situation, mais qui n'est pas descriptif. On voit plus le flux du moment, son énergie, sa part un peu mystique, puisque ces formes fantomatiques, elles ont une force dans l'image. Et c'est vrai que c'est une manière de traiter le sujet qui correspond en fait à comment est-ce qu'on pourrait relier une éthique personnelle à une esthétique.
À une éthique que vous pourriez engager aussi à travers votre profession aussi, qui était ethnologue ou anthropologue, la question de se poser du positionnement de l'anthropologue et de l'ethnologue dans ces enquêtes, finalement, c'est un des sujets. Donc quand vous en parlez, j'ai l'impression d'entendre aussi votre autre métier qui parle.
C'est vrai, enfin ma formation plus que mon métier, mais c'est vrai que je me suis très vite détourné de la recherche en anthropologie, parce que je crois que les formes spéculatives ou fictionnelles, disons que d'un point de vue sensible, elles me permettent de me rapprocher plus de ce que j'ai envie de partager. Et bon, il y a tout un débat dans l'anthropologie avec la question interprétative. Enfin, on le voit avec Michael Taussig ou avec des acteurs qui finalement nous invitent aujourd'hui à plus vraiment catégoriser ou à se demander ce qui est science ou ce qui ne l'est pas, et à aller aussi vers le récit comme manière de documenter ou de mener une investigation. Et c'est vrai que je trouve ça passionnant. Ouais.
Quand vous êtes, comme vous vous installez longtemps dans un territoire, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que votre appareil photo, est-ce que ce travail en cours est facilitateur de la rencontre de l'autre, des autres, ou ça instaure une distance spatiale, temporelle, entre vous et ce monde ?
Je crois que ça dépend de tout un chacun, mais pour moi, aujourd'hui, c'est devenu quasiment une barrière. Et c'est-à-dire que cette question de voir au travers d'un prisme, dans la situation en fait qu'elle présente, et le prisme, enfin la question du prisme, elle n'est pas non plus anodine. Je trouve que c'est un acte qui me pose de plus en plus de problèmes, dans le sens justement d'une autorité. Et je préfère aujourd'hui en fait démultiplier, enfin dans l'exposition vous l'avez vu, il y a une démultiplication des techniques aussi pour démultiplier les points de vue et pour externaliser, en fait, se questionner sur comment est-ce qu'on peut faire image indépendamment de l'acte de prise de vue. Et toutes les images qui ont été faites, notamment avec un scanner, c'était beaucoup plus intéressant de voir, parce que finalement, on peut faire l'image ensemble. Il peut y avoir des gens autour, et en fait, on n'est pas du tout dans la même relation. Et je sais que c'est une technique qui s'est imposée sur place, justement au contact de cette réalité et d'une réalité relationnelle. Et je trouve que c'est ça qui est fascinant quand on passe du temps aussi quelque part, c'est que on en vient à écumer certaines pratiques et on laisse la place à la naissance d'autres. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Ouais.
La naissance d'autres. Et en ce moment, enfin, je veux dire après, puisque là, vous êtes plongé dans ce travail-là ici, qui commence tout juste à être présenté à un public qu'on espère le plus large et diversifié possible. Vous travaillez sur quelque chose en particulier. Vous avez vos projets d'avenir, en tout cas un avenir proche, un avenir.
Je vais faire plus ou moins un second opus ou un développement que moi je trouve relié à cette question de la Terre où est né le Soleil, qui est une investigation qui se questionne sur les constellations de satellites et sur la privatisation de l'espace. Et en fait, là, c'est plus un travail qui va se questionner sur des seuils de visibilité et de quasiment en fait la question de la privatisation du visible. Et de mettre en relation en fait le fait que les observatoires astronomiques sont de plus en plus aveuglés par des constellations artificielles, et se demander en fait comment est-ce que ça change aussi la perspective de la recherche d'un rapport au ciel, et cela aussi en venant voir du côté de la prolifération des déchets électroniques. Donc ça devient une espèce de triangle comme ça de d'interconnexion. Et pour moi, c'est lié dans le sens où c'est comme si on changeait de taille à la problématique. La terre sacrée locale devient finalement la planète. Et c'est une image. Ça va être un travail aussi, je pense, réflexif qui vient questionner l'appareil photographique une nouvelle fois. L'appareil photographique concentré de technologie extrait des mines qui vient en fait mettre en critique l'objet qu'il désigne. Enfin, il y a une relation comme ça, presque tautologique, qui s'annule. Mmh. Et c'est vrai que ça, c'est un espace qui m'intéresse de plus en plus, en fait.
Bah, en 22, en tout cas, ce serait assez extraordinaire, puisque c'est une date anniversaire, puisque Blue Marble a été photographié le 7 décembre 72. Et donc, c'est la première fois qu'on voyait l'entièreté, enfin, nous, petits hommes et petites dames, l'entièreté de cette planète. Donc, c'est vrai que ça a pas mal changé en très peu de temps, finalement, hein, parce que 72-2022, c'est très peu. Mais c'est énorme par rapport à ce qui a pu, effectivement, ce qui peut exister autour de cette première couche. Qui nous entoure.
Ce qui est incroyable, c'est de voir en fait que ça a réellement changé en 2015 avec la promulgation du Space Act, qui en fait joue sur une faille juridique du droit de l'espace et qui permet en fait au privé de s'engouffrer dans la conquête spatiale. Et en fait, au moment où ça s'est passé, je crois qu'on n'a pas réellement réalisé ce qui était en train de se produire. Et pour moi, je vois aussi une espèce de relation aussi avec le danger minier, notamment à Viricuta, à la Terre où naît le Soleil. De voir qu'aujourd'hui, on peut développer des nouveaux narratifs où on nous explique qu'on va extraire plus de minerais pour aller faire de la conquête spatiale et pour aller miner des satellites ou des astéroïdes. Et là, si vous voulez, c'est une nouvelle forme d'accélération qui est absolument prodigieuse, quoi. Enfin, c'est le même principe que les sables bitumineux, en fait. Pour produire un baril, on en extrait un, et en fait, ça rime absolument à rien. Et c'est vrai que franchement, c'est quelque chose qui m'angoisse. Mais que je trouve extrêmement inquiétant, quoi.
Ah ben, dans les conséquences du Space Act en 2021, les États-Unis ont effectivement ouvert un appel à projet, hein, aux entreprises privées pour aller ouvrir des mines sur la Lune, hein. Et on le sait aussi, les mines de grande profondeur aussi sont des situations d'investissement absolument massifs, hein. Donc c'est vrai que, en tout cas, on a le sentiment qu'on est dans une société où l'appétit déborde de tous les côtés.
Alors, on parle souvent de votre travail autour de la question du réalisme fantastique, et là on est en train de parler de cette relation avec la suite de votre travail. Et du coup, je trouve ça assez intéressant parce qu'en faisant le tour de votre exposition, on se retrouve à la fin de l'exposition de cette anecdote que vous avez trouvé cette magnifique brochure sur l'industrie minière et qui vous met en relation justement avec l'espace. Et c'est exactement là où nous en sommes dans la conversation. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot? Est-ce que finalement vous suivez les messages que vous trouvez par terre et qui deviennent finalement la suite de votre travail?
Ben, je trouve que dans chacun des projets, en fait, il y a une image référentielle et qui très souvent, en fait, disparaît même au moment de la restitution du travail. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, on voit aussi quelle image sera la graine de la prochaine série. Et je crois que cette espèce de ces deux polarités ou en fait ces deux entités qui viennent cadrer un travail, c'est extrêmement important de les saisir dès le début parce que elles viennent aussi pas du tout limiter, mais elles viennent définir une recherche. Et c'est extrêmement important parce que on sait sur quoi rebondir. Il y a déjà une tension, en fait, vers une autre réflexion. Et ça, moi, je trouve ça passionnant, ouais.
Eh bien, écoutez, moi, je crois qu'on en arrive plus ou moins à la demi, mais à mon tour d'avoir la gorge sèche. Excusez-moi. Je voudrais juste quand même dire quelque chose que je trouve aussi fort, c'est que vous parlez beaucoup à travers votre travail de recherche, mais aussi que les lieux sont des laboratoires et qui sont vraiment en lien avec le travail sur la photographie, mais aussi en rapport avec la recherche dans les deux cas. Et on est là aussi dans cet espace qui a toujours plusieurs sens. Et je trouve ça assez intéressant d'imaginer que le laboratoire de photographie aujourd'hui est peut-être en dehors de ces laboratoires, et c'est plus qu'une réalité avec le monde virtuel.
Tout à fait.
En tout cas, merci. Et puis surtout, j'invite tous nos auditeurs à aller voir la Terre où est né le Soleil, à croisière, en croisière, y faire une croisière. J'adore le titre, le nom de ce lieu. Donc un travail de Julien Lombardi.
Est-ce que vous voudriez nous recommander une autre exposition, Julien Lombardi, à nos auditeurs?
Une autre exposition? J'ai beaucoup aimé l'exposition de Suzanne Meiselas.
Qui est situé?
Le nom m'échappe. Dans une petite chapelle avec une scénographie magnifique.
Les prêcheurs.
Non, elle est pas très loin de croisière. Elle est juste au-dessus.
Ah oui, au-dessus de croisière.
Formidable.
Et c'est vraiment.
Au-dessus de Bruno Serralongue, justement.
Voilà, exactement.
Ouais. on va finir par tout connaître. En tout cas,
merci et on se retrouve et à très vite. Habiter ici le monde d'ici 3 minutes après cette pause musicale pour évoquer le travail de Arash Anei et superbe exposition sur la question de métaverse en discussion entre Valérie Didier et moi. C'était Julien Lurbardi, merci beaucoup.
Finding the time to be bored out of my mind. I've been walking for days. I don't have the time to play. You're kind of parlay. So won't you come home soon? Won't you come home soon? Never wish for you to go to roll down that old road. You're making my heart low, lost in that old world. You're the only one I'll ever fall. So won't you come home soon? Won't you come home soon? Won't you come home soon? Won't you come home soon?
Rencontre de la photographie, Arles 2022.
Oui, monsieur, j'ai faim. Yann,
alors, nous allons acheter quelque chose de bon.
Anthropos Radio, l'anthropo monte en scène.
Radio Anthropocène.
Cher Jérémy Cheval, nous allons poursuivre cette émission à Habiter ici le monde qu'on a un peu grossi parce qu'il y a tellement de choses à dire ici à Arles à partir des expositions de Arles. Et ce matin, nous avons rencontré l'artiste Arash Anei et le curateur Morad Montazami qui forment en fait le premier duo lauréat du programme BMW Art Makers qui est dédié à la production d'un travail expérimental autour de l'image contemporaine et de sa mise en espace. Leur exposition qui est au cloître Saint-Trophime s'appelle Anthologie avec un H suburbaine et cette exposition propose au travers de différents dispositifs dont nous allons parler de repenser notre rapport aux architectures utopiques des années 60, 70, je dirais même 80. On en parlera plus tard et à l'écosystème périphérique qu'est la banlieue qui accueille ces architectures. En tout cas, c'est ainsi que l'histoire urbaine française s'est construite et il plonge tout ça dans l'univers virtuel du métaverse et de la réalité augmentée. Donc ma première question, Jérémy, c'est quand même, parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette question-là, qu'est-ce que sont les métaverses ?
Alors écoutez, merci Valérie Didier pour cette belle question. Les métaverses, en fait, c'est en quelque sorte la troisième génération d'Internet qui va devenir immersif, méta qui sous-entend transcendance, qui signifie au-delà, hein, qui date de des premières fois où ça va avoir été cité en 1964 dans Simulacron 3 de Daniel Galonoy. Et qui va évoluer. Donc en bref, c'est un mélange entre réalité augmentée et virtuelle. C'est un espace dans lequel, à partir de 2008, va se développer la blockchain. La blockchain qui est en fait la base de données partagée. Donc c'est un lieu où il va y avoir du stockage et de la transmission d'informations. Et très souvent, quand on va parler de métaverse, on imagine cet univers trois dimensions dans lesquelles on va pouvoir se plonger dans une réalité virtuelle qui va être partagée et qui va se nourrir des différentes données partagées les uns les autres. En bref, un autre monde, ce monde virtuel dans lequel nous pourrions aller, où se construit une nouvelle société, une nouvelle architecture, un nouvel urbanisme, de nouveaux espaces et de nouveaux engagements sociaux qui va être la création de crypto-monnaies, les NFT, tous ces nouveaux termes que l'on entend au quotidien aujourd'hui sans trop connaître encore réellement ce que c'est. Donc cette exposition qui est celle de Arash Anei et avec le curateur de Mourad, en quoi ça nous montre finalement ce parallélisme-là, Valérie ? Est-ce que vous pourriez nous reparler de cette relation peut-être avec ces utopies qui ont d'ailleurs été réalisées, de celles
de
Renaudy ?
Oui, parce que là, en l'occurrence, l'architecture utopique réalisée qui est montrée, c'est le projet de Jean Renaudy, de René Gaustet, des étoiles de d'Ivry-sur-Seine. Hein, donc c'est un projet qui est construit entre 69 et 75, qui s'appuie à une époque assez, très politisée, hein, d'une commune de gauche qui retravaille à la question de qu'est-ce que c'est sa centralité. Et donc, s'appuie sur ce travail. Alors, René Gaustet, l'architecte en chef, et puis Renaudy, l'architecte des étoiles, étoiles d'ailleurs qu'on trouve aussi dans la région lyonnaise à Givors, qui sont livrées un tout petit peu plus tard de mémoire en 81, et qui s'appuie sur une espèce d'architecture collinaire, une architecture paysage, de béton bien sûr, hein, le matériau roi de cette époque, et qui fait rentrer, on va dire, le paysage dans l'espace, avec cette particularité, c'est pour ça qu'on l'appelle les étoiles, où il n'y a aucun mur perpendiculaire. En fait, tout est fait en fonction d'angles de béton, mais qui permettent aussi d'autres choses, hein, qui permettent la pénétration des espaces qui s'étagent, et tout un travail de circulation aussi assez intéressante. Hein. Enfin, ce sont des choses tout à fait exemplaire de l'histoire de l'architecture contemporaine et de l'histoire urbaine post-industrielle, enfin de la période plutôt des Trente Glorieuses, mais qui était quand même à la marge. Hein. On n'est pas du tout dans la construction massive des grands ensembles, on est quand même sur des opérations de moyenne taille, en tout cas qui n'ont pas fait école. Ça, c'est quelque chose. Donc moi, ça m'a interpellée, et je voudrais en discuter avec vous, ça m'a interpellée. Que ça soit le choix, hein, puisque c'est le grand film que l'on voit quand on rentre dans l'exposition au cloître, hein, c'est que le choix qui est fait, hein, réel, pour ensuite aller vers cette question du virtuel, c'est cette architecture d'utopie réalisée, ce que j'appelle une utopie réalisée des années 80 en termes de livraison, et que ça soit ça la référence de cet artiste et ce curateur. Et j'avoue que j'ai eu un moment de surprise. Je voudrais connaître votre réaction par rapport à ça.
Effectivement, on s'interroge sur le choix qui est finalement, est-ce que les auteurs vont poser la question de ce brouillage entre l'espace virtuel et réel, entre l'utopie et le réalisé, et finalement c'est des choses qui sont bien concrètes. Et Renaudy, je trouve qu'il représente bien cette idée qui parfois nous semble lointaine, une utopie, mais qui a été réalisé. Et on parle encore, et on va parler d'utopie en parlant du travail de Renaudy, alors que ce n'est pas du tout une utopie, c'est juste une construction. Hein, comme Paco le critiquait à un moment en disant « Est-ce que les utopies en architecture existent réellement ?» à partir du moment où elles sont réalisées. Et effectivement, l'utopie, elle est basée sur le dessin, sur cet imaginaire, sur les ambitions sociales et la manière dont on le fabrique. Mais est-ce que la réalisation physique et matérielle, finalement, peut être considérée comme telle ?
Alors, je suis pas sûre, mais c'est vrai qu'il y avait quand même tout le contrat social, hein, qui porte ce type de projet à cette époque, plus ou moins réalisé. Voilà. Là, il y a quand même une forme d'équité hein, dans les espaces. C'est assez frappant. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'il n'y a pas, comme par exemple, je pense aux architectures, aux grands ensembles urbains des années 20, 30, au moment justement de la première grande période industrielle en France, où on a vraiment le collectif pour l'ouvrier, la maison pour le cadre, etc., etc. Donc, on voit bien que les choses sont hiérarchisées. Hein, l'espace est construit de manière et l'architecture qui répond est très hiérarchisée. On n'a pas du tout ça dans les étoiles. On a plutôt l'impression que les habitants de ce site, c'est un peu comme une fourmilière, ils participent à la construction d'un grand paysage. Donc Il y a ce sujet-là, mais ce qui me surprend encore une fois, dans le cadre de l'exposition qu'on est allé voir ce matin, donc Anthologie suburbaine, c'est quand même de s'appuyer sur cet univers spatial, ce moment de l'histoire de l'architecture. C'est pas rien. Et donc la question que je me pose, et je pense que vous interrogez aussi là-dessus, c'est la question de la matérialité. Parce que cette histoire de métaverse, c'est quand même très troublant, c'est-à-dire que on peut se dire, mais c'est formidable. En fait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on va résoudre les problèmes de cette planète, puisque on va pouvoir rester chez soi, je ne sais pas où d'ailleurs, peut-être sous un ciel étoilé, avec cette architecture qui ne pèse pas, qui ne produit pas de déchets. C'est un truc dingue. Je vais pouvoir circuler dans les espaces et tout ça ne polluera pas. Et tout ça ne s'appuiera pas sur l'extraction. Et on n'aura plus à se poser la question de la matière.
Alors donc, après, il faut quand même, bien sûr, considérer le fait que le monde des métavers produit quand même des gaz à effet de serre. Et il faut jamais oublier, bien sûr, que tous ces espaces qui sont fabriqués dans cette dernière frontière que nous sommes en train d'investir, hein, on va penser à tous ces hubs qui vont être des larges déplacements d'espace dans lesquels on va produire des particules, réchauffer la planète, changer la situation humaine. Et en fait, finalement, on investit un autre monde comme si un nouveau suburb était en train d'apparaître, le suburb vraiment limite, qui se disait bah, ce n'est pas la planète, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas le monde que l'on voit en dehors de la stratosphère, mais bien un autre espace dans lequel on rentre dans des données, dans des datas, dans une fabrication. Mais au-delà de ça, effectivement, vous avez raison Valérie, pour la question architecturale, ça pose 2 milliards de non-problèmes. On va dire que maintenant, il n'y a plus d'apesanteur. On peut fabriquer des espaces comme on le veut. On peut imaginer, bien sûr, une toiture qui pèserait des milliards de tonnes, mais qui volerait, bien sûr, au-dessus de votre lit sans aucun poteau. Et effectivement, ce lieu-là, cette fabrication va pouvoir faire émerger potentiellement des nouveaux espaces architecturaux. Est-ce que vous avez observé des architectes qui commençaient à travailler sur ces espaces virtuels, Valérie ?
Alors, des architectes, je n'ai pas cette ambition, mais en effet, j'ai repéré un projet d'une agence, ou plutôt d'une collaboration entre deux architectes, parce que il y a toute la question financière, hein, parce que c'est quand même, on va pas se cacher derrière son petit doigt, il y a quand même une financiation.
Le marché des métaverses est une réalité. Les parcelles immobilières sont vendues et on peut acheter des architectures qui sont des environnements 3D dans des espaces qui vous appartiennent. Il faut savoir quand même notamment que principalement la question du métaverse est aussi dominée par les producteurs de ces espaces-là, qui sont les États-Unis et la Chine. Et dans cette ambivalence-là, nous sommes l'Europe, régulateur de ces espaces. Et on se pose la question de comment lancer finalement tous ces marchés virtuels et comment réguler tout ça, alors qu'aujourd'hui, c'est relativement le pays de tous les possibles.
C'est le pays de tous les possibles, oui. Mais après, c'est pas surprenant que ça soit nos amis américains et nos amis chinois qui aient pris la main, évidemment, sur ce type de choses. D'ailleurs, ils sont très présents dans l'exposition. Enfin, les Chinois moins que les Américains. Parce que le personnage, fabriqué, dessiné, qui dialogue, il y a cette espèce de grande table, là, où il dialogue, etc. C'est quand même très inspiré de Mark Zuckerberg. Qui a lui-même lancé en fait cette question des métaverses, enfin qui est un promoteur de cette question. Voilà, c'est le nouveau promoteur immobilier, Mark Zuckerberg, c'est là-dessus. Et donc c'est marrant parce que la question immobilière revient toujours à un moment donné quand on veut faire de l'argent, c'est quand même le sujet. Et là c'est l'icône, le pape, Dieu, peut-être.
En face de Mark Fisher.
Et qui est en face de Mark Fisher, exactement, le philosophe. Donc ça c'est quand même assez... Sur cette table, je vous invite à voir l'exposition, parce qu'on est sur une table absolument immense, qui me fait penser à beaucoup de films, mais qui me fait penser aussi aux relations de pouvoir qu'on peut avoir, qu'on a pu voir tout à fait récemment, par exemple, entre notre ami Vladimir Poutine et son gouvernement, enfin... En tout cas,
et Macron, la fois où ils se sont rencontrés au
Emmanuel
début de la
Macron, voilà, c'est ça, cette espèce de distance. Et ça pose toutes ces questions-là. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que dans l'expo, il y ait cette question de deux proto-pseudo-humains qui échangent à une distance où ils ne peuvent ni se sentir ni se toucher, dans un espace qui lui-même ne pèse plus grand-chose. Ça raconte des choses quand même sur une projection possible, pas généralisée, mais quand même.
Et effectivement, l'exposition est autour de ce dualisme-là. Il y a cette dialectique entre l'idée de pouvoir et l'idée de penser. Il va y avoir entre le réel et le virtuel. Et finalement, on va avoir l'espace de Renaudy qui est parcouru par quelqu'un qui fait du parcours. Vous voyez tout à fait cette nouvelle manière d'appréhender les espaces urbains dans lesquels Renaudy, c'est merveilleux, effectivement. On voit une vraie chorégraphie d'un jeune qui traverse tout l'espace étoilé de cette architecture. Et en parallèle, quelqu'un qui, avec son oculus, qui est une femme au sol avec une bâche en plastique et qui... On imagine qu'elle se projette dans l'espace de Renaudy, mais alors elle, à se déplacer comme quelqu'un qui est dans un lieu où, comme si elle était toute seule, et qu'elle ne se déplaçait pas du tout dans cet espace qui est complètement, qui induit un mouvement du corps très, très particulier. Et là, elle se retrouve au palais de Tokyo, au sol, à ramper.
Elle rampe, hein, ouais. Ah oui. On a l'impression même qu'elle essaie d'échapper à l'espace. Ça, c'est très frappant parce que les trois quarts du temps, elle rampe vraiment au sol, elle se soulève à peine, hein, elle n'est pas un nouveau sol qui se soulèverait. Et on a presque l'impression qu'elle essaie d'échapper, qu'elle essaie de fusionner même avec quelque chose, alors pour le coup, d'extrêmement tangible, puisque là, on est dans des images d'un bâtiment existant, on n'est pas dans des images projectuelles, hein, donc on est dans une réalité tout à fait classique, un grand rectangle, enfin voilà, avec une hauteur sous plafond assez simple, et il y a ce corps qui est quasi absorbé, on a l'impression qu'elle peut pas échapper de l'espace, mais en même temps elle ne joue pas avec l'espace.
Non, effectivement.
Ça, c'est une question, quand même.
Elle joue avec l'espace qui est celui qu'elle voit à travers son oculus. Et effectivement, les gens qui la regardent et qui la filment de l'extérieur et qui la représentent, pour nous, la rendent comme quelque chose qui est posé au sol et qui vit dans un univers en quelque sorte aveugle et hermétique à l'espace qui est autour d'elle, de cette réalité. Donc, cette exposition pose cette question vraiment autour de tous ces échecs-là aussi, hein, et qu'il représente à travers finalement une autre petite vidéo où on voit encore une fois une représentation cagoulée de Mark Zuckerberg qui joue face à Mark Fisher. Hein. Ils sont en train de jouer aux échecs et il n'y a pas de gagnant, pas d'issue, mais des questions qui reviennent tout au long de la vidéo et on les voit comme ça s'affronter comme deux avatars face à un espace sans issue.
Oui, et puis sans issue, puis qui est alimenté par les mots qui apparaissent en haut de l'image. À ce moment-là, vous avez dû le remarquer, et des mots dépression, nostalgie. On est dans quelque chose de très lourd et de très pas angoissant, pas anxiogène. Encore que les têtes cagoulées, j'ai quand même pas trouvé que c'était absolument formidable comme image, mais qui rentre en opposition avec cette question des métaverses et ces questions de la légèreté, cette question de l'extrême porosité de l'espace, du flottement. Et c'est assez perturbant. En tout cas, ça pose énormément de questions. Et je trouve que ça pose d'autant plus de questions ici à Arles, où toutes les expositions, évidemment, des rencontres sont dans la ville et on passe son temps dans cette ville, une ville minérale, une ville ancienne, une ville dont l'architecture assume son poids. Beaucoup de blocs de pierre massive constituent aussi bien l'architecture domestique que celle des arènes ou d'amphithéâtres ou d'autres lieux somptueux. Et donc ça m'interroge sur à quel endroit finalement sur cette question spatiale, ces questions d'architecture, à quel endroit les contraintes sont réellement des contraintes? À quel endroit s'abstraire de contraintes nous offre un espace des possibles dans un monde fini où cette question de l'habitabilité est effectivement en crise?
Et du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est bien sûr notre capacité à imaginer. Et à imaginer ces autres choses. Nous sommes en quelque sorte limité par notre propre imagination, et c'est comme si est-ce que nous avions en quelque sorte le métaverse de notre propre imagination, un espace qu'on pourrait débloquer et imaginer qu'une couleur n'existerait pas, ou qu'un espace ou un fonctionnement social n'existerait pas, alors que pour nous il n'a jamais existé. En bref, pour moi la question du métaverse reste proche finalement d'une idée de réalité. Et tout ce qu'on y fabrique, que ce soit les innovations architecturales, les innovations médicales, etc., sont basées encore sur toutes nos contraintes, on va dire, de ce monde qui est en quelque sorte bien réel. Mais c'est un lieu d'expérimentation et un vrai laboratoire. Et oui, pour l'architecture, je pense que c'est un espace où peuvent s'immiscer une grande génération d'architectes qui, eux, ne sont pas des constructeurs, ne sont pas des fabricants, ne sont pas des personnes qui souhaitent évoluer dans un monde réel, mais bien virtuel. Et effectivement, la transformation, on va dire, depuis les années 2000, de l'architecture avec AutoCAD, avec jusqu'à Grasshopper, enfin toute cette digitalisation finalement de notre pratique, de notre rapport au corps ou du plan ou de l'espace qui n'est plus dessiné, on est rentré dans cette ère qui devient en quelque sorte trois dimensions et décidée en fonction des usagers et partagée. Et donc il y a toute une génération de penseurs d'espace qui peuvent tout à fait potentiellement, en tout cas, nous donner un nouveau langage architectural qui serait libéré de ses contraintes. Est-ce que c'est un espoir? Est-ce que c'est...
Moi, la question que je me pose, et j'ai pas la réponse, c'est que je pense que c'était déjà là. C'est-à-dire qu'on voit, cette transformation d'une partie de ce métier qui est architecte depuis longtemps. C'était qu'il existe plusieurs écoles d'une certaine manière, et il y a, on voit bien des choses. Bon, on va pas se cacher non plus derrière la réalité. L'immense majorité de la pratique est architecturale, c'est une pratique assez standard. Qui est pas forcément très inventive, qui s'appuie sur des techniques qui roulent, qui sont rentrées dans tous les tableaux Excel du promoteur de base, et voilà. Mais si je m'intéresse aux plus inventifs de ces architectes, il y a effectivement ceux, on voit bien, toujours pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, ceux qui reviennent. Enfin, qui reviennent, j'aime pas ce terme, mais qui se réintéressent à cette culture constructive, notamment à partir des milieux sur lesquels sont situés des matériaux biosourcés, etc. Donc on voit bien qu'on a un mouvement dans ce sens qui est pas né aujourd'hui non plus. Et on a, j'allais dire, les prémices des métaverses. Zaha Hadid s'intéressait déjà à ça. Et puis je pense à un exemple tout simple qui est ici à Arles, qui est la tour de Louvre. Je rappelle qu'elle est de Franck Gehry, et je rappelle comment travaille Franck Gehry. Pas simplement pour ce projet.
Nous sommes en train de parler de cette canette écrasée que
canette de coca. On canette nous a dit ce matin dans la rue à Arles. On nous a dit, voilà. De Cantoni nous a dit, c'était la canette de coca. Je rappelle que l'architecte de la tour, de cette
Franck
tour,
Gehry, oui.
Franck Gehry, voilà, qui est déjà, on va dire, un homme très mûr. Hein. C'est pas un jeune architecte. Depuis très longtemps, il travaille en maquette. C'est-à-dire qu'il travaille hors sol. Il travaille hors sol. Et ce qui l'intéresse, c'est la circulation des gens, des personnes, des flux, de tous les types de flux dans les espaces. Et depuis très longtemps, il travaille avec une caméra de chirurgie. C'est-à-dire qu'il fait des maquettes, il creuse quasiment une masse et il rentre cette caméra. Il se simule à l'intérieur, puisque les maquettes sont pas à l'échelle 1. Et donc, à partir des espaces qu'il voit, il les retravaille, évidemment, parce que plus grand, moins grand, parce qu'il veut produire un effet. Et ensuite, il trouve la technologie pour construire. Donc là, on est dans quelque chose, non pas qui flotte comme les métaverses, mais on est déjà dans quelque chose qui est hors le monde, qui est posé là, qui pourrait être ailleurs. Et qui se vit de l'intérieur, c'est-à-dire qui se vit comme l'intérieur d'un corps humain. hein, qui se vit comme une abstraction aussi, hein, où la question, seule la question du flux, du mouvement est importante. Et j'ai pensé à ça ce matin, pas simplement parce qu'on est à Arles, mais quand on regardait cette exposition, j'ai pensé à ça, c'est-à-dire j'ai pensé à cet aspect intérieur, retourné, un aspect sans sensualité, mais pour autant extrêmement vivant. Et j'ai pensé à toutes ces choses-là qui existent depuis longtemps. Je connais pas votre... Jérémy, j'aimerais connaître votre avis. Mais voilà, j'ai repensé à Guéry, j'ai repensé à ces choses qui existent depuis longtemps. Ça a dit aussi travailler de cette manière-là.
Et effectivement, ça c'est la question architecturale, mais aussi le sujet de l'exposition, enfin qui s'appelle Anthologie post-urbaine, hein, de Arash Anaï avec le curateur Morad Montazani. C'est la question post-urbaine que sous-entend finalement la création des métaverses et de cet espace virtuel. Et on le voit un peu à travers cette exposition, vraiment entre ces personnages qui sont dans une réalité urbaine et d'autres qui ne le sont pas, et des espaces qui sont créés dans un lieu où en fait finalement la situation des relations sociales, on va dire, où tout le monde est avec son Oculus et se déplace dans un espace virtuel, est-ce que la question post-urbaine physique est réelle et concrète est un phénomène à interroger avec le développement des métaverses. Et il le reprend avec son projet et son travail où il va faire des dessins numériques, où là il va reconstruire dans ses dessins numériques des reconstitutions entre un imaginaire interne, des personnages qui sont pris en photo au départ sur un iPhone, une reconstitution 3D de cet espace-là, et puis on va avoir ça qui est tout enchevêtré. En quelque sorte, tout est en quelque sorte asynchrone, mélangé et repris dans des couleurs très flashy qui vous...
très pop, hein.
Très pop. Et qui vous ramène dans un lieu où on n'arrive plus trop à savoir finalement l'espace que nous sommes en train de regarder.
Oui, je pense que moi aussi j'ai ce sentiment un peu, un moment de floutage, en tout cas de brouille. Puis je me suis interrogée sur la question de pourquoi le suburbain, c'est pourquoi cet endroit-là pour dire que c'est là que les choses s'étaient passées ou se passeraient demain. Enfin, c'est dans la manière de prendre la question urbaine, il a choisi une situation de banlieue, ce qu'on appelle nous en français. Et puis après, j'ai repensé au titre de l'expo, Anthologie urbaine. Alors, je le dis pour ceux... Superman, pardon, c'est anthologie avec un H, donc c'est pas tout à fait la signification que j'imaginais, qui est un mouvement artistique et culturel qui est apparu il y a une vingtaine d'années à peu près, et qui dans tous les domaines, hein, qui s'exprime dans la musique principalement, mais pas que, et qui consiste donc en des œuvres qui se construisent à partir d'une trace en provenance du passé. Donc là aussi, Je me suis dit, dans cette projection incroyable qui était les métaverses, il y a vraiment ce besoin qu'ont eu les artistes, l'artiste et le curateur, de se dire j'appartiens à ce monde et j'appartiens à ce passé-là. En tout cas, c'est...
Eh bien, merci beaucoup Valérie Didier. Nous sommes ici aux rencontres de la photographie à Arles en 2022, au cœur de la chapelle du Méjean. J'en profite, chers auditeurs, à vous inviter à venir en direct ce soir à 18h30, parce que dans la chapelle du Méjean, aujourd'hui ouvert en public, d'ailleurs n'hésitez pas à passer toute la journée voir ces magnifiques expositions. Donc l'exposition Anthologie post-urbaine de BM, qui vient du prix BMW Art Maker, est encore ouvert, hein, et qui est avec l'artiste Arash Anaï et le curateur Morad Montazani, qui se retrouve au cloître Saint-Trophisme. Et nous sommes à la chapelle du Méjean, hein, et ce soir, bien sûr, nous allons aborder d'autres sujets. Je refais la pub parce que effectivement, ça serait formidable de vous avoir pour débattre, car nous aurons une demi-heure pour pouvoir échanger avec les curateurs et les artistes de l'exposition en Terre Mapuche, qui va être avec Tito Gonzalez, Sergio Vanzuela et Florianza Grisanti. Donc ce soir, ça va être un grand moment et je vous invite tous à venir. Et écoutez, Valérie, est-ce que un petit mot architectural pour terminer cette émission peut-être ?
Un petit mot architectural, l'exposition dont on vient de parler est au cloître Saint-Trophime, et franchement, grimper sur le toit, ce cloître extrêmement pesant en pierre massive, mais qui flotte dans les airs avec une toiture totalement en pierre des carrières de cette belle région, c'est quand même juste un bonheur intense.
Merci à vous toutes et à tous.
Ouais, à plus tard, au revoir.
Habiter.
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 Ici et le monde.
Ici et le monde.